comme une unique montée en pèlerinage de Galilée à Jérusalem. C'est une montée avant tout dans le sens géographique. La mer de Galilée est située à environ 200 mètres sous le niveau de la mer. La hauteur moyenne de Jérusalem est de 760 mètres au-dessus de ce niveau. Comme palier de cette montée, chacun des synoptiques nous a transmis trois prophéties de Jésus à propos de sa passion, faisant aussi allusion par là à la montée intérieure qui se déroule sur son chemin extérieur, la montée vers le temple, comme lieu où Dieu voulait établir son nom, ainsi que le livre du Deutéronome décrit le temple, 12:11, 14:23. Le but ultime de cette montée de Jésus est l'offrande de lui-même sur la croix, offrande qui remplace les sacrifices anciens. C'est la montée que la lettre aux Hébreux qualifie comme la montée vers la tente, non plus faite de main d'homme, mais qui est dans le ciel même, devant Dieu. 9:24. Cette montée vers Dieu passe par la croix. C'est la montée vers l'amour jusqu'au bout. Jean 13:1, qui est la vraie montagne de Dieu. Toutefois, le but immédiat du pèlerinage de Jésus, c'est Jérusalem, la ville sainte avec son temple, et la Pâque des Juifs, comme l'appelle Jean 2:13. Jésus s'était mis en route avec les 12, mais peu à peu un nombre croissant de pèlerins s'était associé à eux. Matthieu et Marc nous racontent que déjà, au départ de Jéricho, il y avait une foule nombreuse qui suivait Jésus. Matthieu 20:29, Marc 10:46. Dans cette première partie du parcours, un événement accroît l'attente de ce qui va arriver et met Jésus d'une nouvelle façon au centre de l'attention des pèlerins. Au bord de la route est assis un mendiant aveugle du nom de Bartimée. Il vient à savoir que parmi les pèlerins, il y a Jésus. Et alors il ne cesse de crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Marc 10:47. On cherche à le calmer, mais en vain. Et à la fin, Jésus l'invite à s'approcher. À sa supplication, « Rabouni, que je recouvre la vue !» Jésus répond « Va, ta foi t'a sauvé. » Bartimée retrouva la vue et il cheminait à la suite de Jésus. Marc 10:48-52. Ayant recouvré la vue, il s'associa au pèlerinage vers Jérusalem. Le thème « David » et son espérance messianique intrinsèque s'empara subitement de la foule. Ce Jésus avec lequel ils étaient en chemin, n'était-il pas en fait le nouveau David attendu? Avec son entrée dans la ville sainte, l'heure où il aurait rétabli le règne de David n'était-elle pas arrivée? La préparation que Jésus réalise avec ses disciples augmente cette espérance. Venant de Bethphagée et de Béthanie, Jésus arrive au mont des Oliviers, d'où on attend l'entrée du Messie. Il envoie en avant deux disciples auxquels il dit qu'il trouverait un âne à l'attache, un ânon, que personne n'avait encore jamais monté. Ils doivent le détacher et le lui amener. À une éventuelle demande de se justifier, ils doivent répondre « Le Seigneur en a besoin ». Marc 11:3, Luc 19:31. Les disciples trouvent l'âne, ils sont, comme prévu, interrogés sur leurs droits. Ils donnent la réponse qui leur avait été ordonnée et ils peuvent accomplir leur mission. Ainsi Jésus entre dans la ville sur un âne emprunté qu'aussitôt après, il fera reporter à son propriétaire. Au lecteur d'aujourd'hui, tout cela peut sembler plutôt sans importance. Mais pour les Juifs contemporains de Jésus, c'est lourd de significations mystérieuses. Le thème de la royauté avec ses promesses est tout particulièrement présent. Jésus revendique le droit royal de la réquisition de moyens de transport, un droit connu dans toute l'Antiquité. Pêche, Marcus Evangelium, 2, page 180. Et le fait qu'il s'agisse d'un animal sur lequel personne n'est encore monté renvoie aussi à un droit royal. Mais surtout, il y a une allusion à ces paroles vétéro-testamentaires qui donne à tout le déroulement de la scène sa signification la plus profonde. Il y a avant tout Genèse 49:10, la bénédiction de Jacob, où est remis à Judas le sceptre, le bâton de commandement, qui ne s'éloignera pas d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui est due l'obéissance des peuples. Il est dit de lui qu'il liera son âne à un cep de vigne, 49:11. L'âne lié renvoie donc à celui qui doit venir, à qui est due l'obéissance des peuples. Plus important encore est Zacharie 9:9, le texte que Matthieu et Jean citent explicitement pour la compréhension du dimanche des rameaux. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi. Modeste, il monte une ânesse et un ânon, petit d'une bête de somme. Matthieu 21:5, Zacharie 9:9, Jean 12:15. Nous avons déjà réfléchi amplement sur la signification de ces paroles du prophète pour la compréhension de la figure de Jésus, en commentant la béatitude des doux, des humbles. Volume 1, page 101-105. Il est un roi qui brise les arcs de la guerre, un roi de la paix et un roi de la simplicité, un roi des pauvres. Et enfin, nous avons vu qu'il gouverne un royaume qui s'étend d'une mer à l'autre et embrasse le monde entier. Page 102-103. Cela nous a rappelé le nouveau règne universel de Jésus qui, dans les communautés de la fraction du pain, c'est-à-dire dans la communion avec Jésus-Christ, étend d'une mer à l'autre ce règne de sa paix. Page 105. Tout cela n'était pas perceptible alors, mais en rétrospective. Tout ce qui était caché dans la vision prophétique devient évident en regardant de loin. Pour le moment, gardons ceci à l'esprit. Jésus revendique de fait un droit royal. Il veut que son cheminement et son agir soient compris selon les promesses de l'Ancien Testament qui, en lui, deviennent réalité. L'Ancien Testament parle de lui, et inversement, il agit et il vit dans la parole de Dieu, et non selon des programmes et des désirs qui seraient siens. Son exigence se fonde sur l'obéissance face à l'ordre du Père. Son cheminement est un cheminement à l'intérieur de la parole de Dieu. L'ancrage au texte de Zacharie 9:9 exclut en même temps une interprétation zélote de la royauté. Jésus ne se fonde pas sur la violence. Il n'engage pas une insurrection militaire contre Rome. Son pouvoir est d'un caractère différent. C'est dans la pauvreté de Dieu, dans la paix de Dieu, qu'il reconnaît l'unique pouvoir qui sauve. Revenons au déroulement du récit. L'ânon est conduit à Jésus. Et alors se passe quelque chose d'inattendu. Les disciples jettent sur l'âne leur manteau. Tandis que Matthieu 21:7 et Marc 11:7 disent simplement « et il s'assit dessus ». Luc écrit « ils firent monter Jésus » 19:35. C'est cette parole qui est utilisée dans le premier livre des Rois, dans le récit de l'élévation de Salomon sur le trône de son père David. On y lit que le roi David ordonne au prêtre Sadoc, au prophète Nathan et à Benaïahu, « prenez avec vous la garde royale, faites monter mon fils Salomon sur ma propre mule et faites-le descendre à Gion. Là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan lui donneront l'onction comme roi d'Israël. » 1:33. Le fait d'étendre les manteaux a aussi sa tradition dans la royauté d'Israël. 2 Rois 9:13. Ce que font les disciples est un geste d'intronisation dans la tradition de la royauté davidique et ainsi dans l'espérance messianique, qui s'est développée à partir de cette tradition. Les pèlerins qui, avec Jésus, sont venus à Jérusalem, se laissent gagner par l'enthousiasme des disciples. Ils étendent maintenant leur manteau sur la route où il avance. Ils coupent des branches d'arbres et crient des paroles du psaume 118, paroles de prière de la liturgie des pèlerins d'Israël, qui sur leurs lèvres deviennent une proclamation messianique. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume qui vient de notre père David, Hosanna au plus haut des cieux. Marc 11:9, psaume 118:25. Cette acclamation est rapportée par les quatre évangélistes, même si c'est avec leurs variantes spécifiques. Nous ne nous occuperons pas ici de ces différences qui ne sont pas sans signification pour l'histoire de la transmission et pour la vision théologique de chaque évangéliste. Nous cherchons seulement à comprendre les lignes de fonds essentielles, d'autant plus que la liturgie chrétienne a accueilli cette salutation en l'interprétant selon la foi pascale de l'Église.